Grand Angle.
Vous êtes bien sur Radio Orient. Des incendies ravagent une partie du sud-ouest de la France. Ils s'ajoutent aux feux qui touchent l'Europe, l'Italie ou encore le Portugal. Cela dans un contexte de nouvelles vagues de chaleur. L'Algérie aussi a tout récemment été touchée. Emmanuel Macron s'est rendu en Gironde ce lundi après-midi. Au-delà de l'urgence, ces méga-feux interrogent bien sûr notre capacité à vivre avec un climat qui change. Bonjour Corinne Lepage.
Bonjour.
Vous êtes ancienne ministre de l'Environnement. Vous êtes avocate spécialisée en droit de l'environnement et quand vous voyez ce qui se passe, notamment en Gironde, est-ce que vous vous dites que l'on est face à une catastrophe de plus ou alors que l'on est réellement entré dans une nouvelle époque et qu'il faut penser à s'adapter ?
Je pense que c'est la deuxième présentation qui est la bonne. Cette multiplication des méga-feux qui intervient alors que nous allons entrer dans notre quatrième vague de canicule depuis le mois de juin, les sols sont extrêmement secs, donc on manque d'eau, traduit bien des effets d'accélération du dérèglement climatique. Donc oui, on a changé d'époque. Les incendies dans les forêts, c'est pas nouveau. On parle beaucoup du grave incendie qu'il y avait eu en 1947 dans la même région, dans le Bordelais. Là, on est en face de quelque chose qui est... inconnu en France, c'est-à-dire un méga-feu qui produit lui-même son climat, comme l'ont expliqué les sapeurs-pompiers, parce qu'il est tellement puissant qu'il est capable de modifier l'économie des nuages au-dessus de lui. Donc c'est quelque chose qui est sans précédent.
Et on a changé d'époque, oui. Dites-vous. A-t-on changé de doctrine, de politique ?
Non, pas suffisamment. Enfin, un peu. Mais pas suffisamment. Alors j'ai bien entendu notre ministre de l'Intérieur faire des efforts désespérés pour dire que non, il y avait beaucoup de moyens, mais c'est pas vrai. Il faut écouter les sapeurs-pompiers, on a des Canadairs. Sur nos 12 Canadairs, il y en a, je crois, 7 qui sont en état de marche. Je veux bien qu'il y ait de l'intendance à faire, mais l'intendance, on l'a fait l'hiver, on l'a fait pas l'été sur les Canadairs, en principe. Donc je pense que c'est un problème beaucoup plus grave que simplement une simple remise en état. C'est qu'il nous manque probablement des pièces qu'on n'a pas ou qu'on n'a pas achetées, etc.
Du très court terme.
Je parle du très court terme, mais il y a aussi toute l'adaptation. Là, vous voyez ce que sont en train de faire les pompiers, puis un certain nombre de volontaires pour abattre des arbres de manière à faire des trouées, pour faire des feux préventifs, pour éviter que les feux se propagent, etc. Tout ça va devoir être généralisé, on va devoir repenser nos maisons beaucoup plus éloignées des pinèdes, par exemple. Et puis repenser également les types de boisements, parce que effectivement le pin, ça brûle très très bien. Donc dans un climat de plus en plus sec, est-ce que c'est ce type d'arbre qu'il faut continuer à planter ? Vous voyez, on va avoir toute une série de questions qui vont se poser.
Et lorsque l'on vous écoute, on comprend que pour vous, la France, notamment bien sûr, n'est pas prête. Qu'est-ce qui, selon vous, aurait dû être fait il y a 10 ans et ne l'a pas été?
Il y a des choses qui sont faites. Il y a le fonds vert pour aider les collectivités locales. Il y a un peu d'argent qui est mis effectivement sur la sécurité civile. On a augmenté les budgets, mais de manière très insuffisante. Alors, la France, elle est confrontée à une grande difficulté. C'est qu'elle a les difficultés budgétaires que chacun connaît. Et que donc, on rogne un peu partout pour essayer de trouver 3 francs 6 sous de ci, de là. Or, c'est le système entier qui doit être pensé. Parce que vous voyez bien qu'il y a des priorités qui ne sont pas assurées. La lutte contre l'incendie en est une, mais l'éducation nationale en est une autre, la justice une troisième, la défense une quatrième, la police une cinquième, etc. Donc, si vous voulez, je pense qu'il faut impérativement qu'on revoie les priorités en termes de dépenses publiques, et puis peut-être des modes de financement public-privé différents. Je voyais que l'État faisait appel aux compagnies d'assurance, je pense que les assurances ont un rôle très important à jouer pour obliger à faire de la prévention.
C'est important ce que vous dites, parce que c'est vrai, à force de reconstruire, d'indemniser, de mobiliser des milliers de pompiers, on constate que le coût du changement climatique est en train de devenir un sujet économique majeur, presque autant qu'environnemental. Oui.
Majeur, ça coûte une fortune, donc ça coûtera beaucoup moins cher d'investir dans la prévention et je dirais, dans les moyens de lutter, ce qui est une autre manière de faire de la prévention, que de supporter les milliards d'euros que ça va nous coûter. Je pense avec angoisse à ce que doivent se dire aujourd'hui les hôteliers, les restaurateurs, tous les professionnels du tourisme de la région bordelaise, pour qui c'est une véritable catastrophe, sans parler des entreprises qui, probablement, pour certaines d'entre elles, ont des dommages considérables. Voilà, donc tout ça a un coût astronomique.
Et est-ce qu'il devrait y avoir un véritable plan européen face à cette situation? Alors, et ces différentes tragédies?
Déjà, il y a de la solidarité européenne. Aujourd'hui, on a des instruments de lutte contre le feu qui sont de la solidarité européenne. Mais je pense qu'il va falloir aller beaucoup plus loin, qu'il va falloir aller vers des plans européens pour la forêt européenne, sachant que la forêt européenne, elle n'est pas elle n'est pas unitaire. Vous ne pouvez pas comparer les forêts scandinaves avec les forêts du sud de l'Europe. Ça n'a rien à voir, vous voyez. Mais il faut qu'on ait une harmonisation dans nos systèmes de prévention, bien sûr.
Et ne bien entendu pas s'habituer à ces catastrophes.
Il faudrait éviter d'avoir à s'y habituer. Mais vous savez, le temps qu'on mette un système en place, il va se passer malheureusement quelques années et quelques incendies encore supplémentaires.
Oui, parce que chaque année, hein, des réunions internationales ont lieu, les fameuses COP. Des mesures suffisantes, à la hauteur, sont-elles prises lors de ces réunions internationales? Est-ce que les principaux pollueurs, justement, sont ceux qui agissent le plus?
On parle beaucoup d'adaptation, mais le sujet qui reste majeur, c'est celui de l'atténuation. On a besoin des deux. C'est-à-dire qu'on a tellement traîné les pieds pour l'atténuation, maintenant il faut faire et l'atténuation et l'adaptation en même temps. Ça coûte évidemment deux fois plus cher. Mais on n'atténue pas assez. Quand vous voyez que dans les COP, on n'est pas capable de dire qu'il faut sortir du fossile, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Vous êtes avocate spécialisée dans le droit de l'environnement. Vous avez été ministre de l'Environnement. Lorsque vous étiez en poste, quelles étaient vos principales préoccupations concernant ce sujet? Le changement et le dérèglement climatique étaient à l'époque moins évoqués.
J'ai été ministre il y a 30 ans, même 31 ans, puisque j'étais nommée en 80. J'ai fait voter le premier texte qui concerne le sujet, c'était la loi sur l'air et l'économie rationnelle de l'énergie. L'utilisation rationnelle de l'énergie, la loi LAURE. Qui traitait à la fois de la pollution de l'air et de la lutte contre le dérèglement climatique. C'est la première du genre. Elle était encore modeste sur la question des dérèglements climatiques, même si elle traitait de l'habitat, de la mobilité, de passer à d'autres types d'énergie, c'est-à-dire des énergies renouvelables. Mais il faut se rendre compte qu'à l'époque, les prévisions du GIEC était dans un scénario catastrophe d'avoir 1,5 degré en 2100. Le 1,5 degré, on y est en 2025 quasiment. Donc si vous voulez, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions.
Vous êtes l'autrice, Corinne Lepage, hein, de Le discrédit écologique. Est-ce que justement, vous pouvez nous faire part du message que vous adressez dans cet ouvrage qui est sorti le mois dernier?
C'est un petit livre qui se lit en même pas une heure.
Chez Gallimard.
Une quarantaine de pages, c'est l'édition tract de Gallimard. Qu'est-ce que j'ai voulu dire? J'ai voulu dire qu'il fallait qu'on sorte absolument, et ce qui se passe actuellement illustre parfaitement mon propos, d'une vision binaire qui fait que pour l'extrême droite, l'écologie est haïssable, ce sont des écophobes, et l'écologie aujourd'hui est capturée par l'extrême gauche et le wokisme. Parce que, tout simplement, les Verts ont, pour des raisons de politique électorale, besoin de s'allier avec LFI. Donc, plus l'écologie s'extrémise à gauche, et plus elle est haïe à droite. Donc, on arrive dans un système d'une débilité profonde, dans lequel vous êtes de droite, vous êtes anti-écolo, vous êtes de gauche, vous êtes pro-écolo. C'est complètement crétin. Je dirais que ça tourne le dos au bon sens et à l'intérêt général. Et donc, mon idée, c'est de dire, il faut qu'on reconquiert, il faut que l'écologie reconquiert l'opinion publique. Qui n'y est pas opposé, mais qui, pour des raisons politiciennes, va avoir des positions, je dirais, doctrinaires. Il faut sortir de l'idéologisation. quand il y a un incendie, on se fout pas mal de savoir si c'est dans une commune de droite ou de gauche, ou si c'est un pompier de droite ou un pompier de gauche. On voit bien que c'est stupide. Donc, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est de défendre notre condition de vie sur Terre. Ça intéresse tout le monde. Ce n'est pas une question idéologique. Et donc, ma proposition, elle est de sortir de cette espèce de ghetto dans lequel les uns et les autres nous enferment pour revenir au bon sens et à ce qui est indispensable. Et donc, je propose trois voies. La première, c'est de dire les questions environnementales, c'est avant tout des questions de santé. Parce que par la santé, vous remontez à ce que vous buvez, ce que vous mangez, ce que vous respirez. Et donc, vous vous posez les bonnes questions. Au passage, ce qui se passe à Bordeaux, sur le plan de santé publique, c'est une catastrophe. Et à Montpellier, on a un air catastrophique parce qu'on reçoit l'air de Bordeaux. Pourtant, c'est loin. Donc, la santé. Ensuite, l'économie. Parce que ce nouveau monde, c'est pas un monde de décroissance, c'est un monde d'un autre modèle de développement économique avec des emplois à la clé. J'ai pas le temps de développer. Et puis la troisième partie, c'est parce qu'il faut retrouver l'humanisme et l'universalisme. Et l'universalisme, il est par l'écologie est par définition universel. Parce que ça concerne le nord comme le sud, les gens pauvres comme les gens riches, ça concerne tout le monde. Voilà.
Eh bien, un grand merci, Corinne merci Lepage. Vous dites que vous n'avez pas le temps de développer ce développement. Il est dans le discrédit écologique ou comment sortir du Black Lash. C'est aux éditions Gallimard. C'est un ouvrage qui est sorti il y a tout juste un mois. Merci à vous. Je rappelle vous êtes docteur en droit, avocat au barreau de Paris et Bruxelles, ancienne ministre et professeure à l'IEP de Paris. Merci, Corinne Lepage.
Merci.
C'était Grand Angle.